Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique édition du mardi 5 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Les titres pour commencer, tentative de médiation angolaise entre les présidents de la RDC et du Rwanda. Une rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a dit lundi vouloir laisser place à un gouvernement civil au cinquième jour de sitting contre le pouvoir militaire et la répression. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, à Rabat pour rencontrer des responsables marocains, renonce à une visite au Sahara occidental. Ici aux États-Unis, interpellation d'un suspect après une fusillade qui a fait lundi au moins 6 morts et 26 blessés lors d'un défilé près de Chicago pour la fête nationale américaine du 4 juillet. Le président russe Vladimir Poutine ordonne de poursuivre l'offensive dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la prise de Lysychansk. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'Angola confirme la tenue mercredi d'une rencontre entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue au Rwanda, Paul Kagame. Plus tôt, des responsables des deux pays avaient annoncé la tenue de cette rencontre à l'agence Reuters. La tension naît de l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC sera au cœur des discussions à Brahmandia.
Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent retrouver demain mercredi le président angolais João Lourenço dans la capitale Luanda, a précisé le service de presse de ce dernier. Initialement prévue ce mardi, la rencontre a été reportée au 6 juillet selon cette source. Lundi, le président Kagame a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que le Rwanda soit exclu d'une force militaire régionale mise en place en avril pour combattre les groupes armés dans l'est de la RDC, levant ainsi un potentiel obstacle à une telle rencontre. « Nous ne supplions personne de participer à la force », a déclaré Paul Kagame à la télévision publique rwandaise dans une interview. La RDC avait accueilli favorablement le plan régional, mais avait déclaré qu'elle n'accepterait pas l'implication du Rwanda. Fin mars, l'M23 a commencé à mener son offensive la plus soutenue dans l'est de la RDC depuis des années, Kinshasa accusant le Rwanda de le soutenir. De son côté, le Rwanda accuse l'armée congolaise de tirer sur le territoire rwandais et de combattre aux côtés des FDLR, un groupe armé hostile à Kigali.
Au Soudan, le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan a annoncé lundi le retrait de l'armée du dialogue national mené sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Il dit vouloir laisser les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes. Le point avec Eric Manirakidza.
Cette annonce faite lors d'une allocution à la télévision d'État intervient alors que des centaines de Soudanais organisaient pour le cinquième jour consécutif des sit-ins à Khartoum et dans ses banlieues pour réclamer le départ du pouvoir militaire et dénoncer la répression qui a déjà fait 114 morts. Abdel Fattah al-Burhan a également fait savoir qu'après la formation d'un gouvernement qui va s'occuper des affaires, la junte va dissoudre le conseil souverain et former un conseil suprême des forces armées qui englobera également des paramilitaires et ne sera plus en charge que des questions de défense et de sécurité. Le Conseil souverain, plus haute autorité de la transition au Soudan, avait été formé en 2019 suite à la révolution qui a mené à la destitution du président Omar el-Béchir. Le 25 octobre dernier, les civils ont été écartés de son conseil et du gouvernement et le pouvoir a été accaparé par les militaires et leurs alliés paramilitaires ou ex-rebelles armés. Depuis, les militants pro-démocratie manifestent chaque semaine. Leur mouvement qui s'était essoufflé il y a plusieurs mois a semblé repartir après la mort de 9 manifestants jeudi.
L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'italo-suédois Staffan de Mistura, a Rabat lundi pour rencontrer des responsables marocains, mais il a renoncé à une visite prévue dans le territoire disputé du Sahara occidental, a indiqué l'ONU hier. Les médias marocains précisent que M. de Mistura est arrivé au Maroc samedi. Nani Talani.
L'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental se trouve à Rabat afin de rencontrer les officiels marocains, a déclaré à New York le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Ces visites visent à faire avancer le dialogue et le processus politique sur le Sahara occidental. Toutefois, l'ONU rapporte que M. de Mistura a décidé de ne pas procéder à une visite dans cette région pendant son voyage, espérant le faire lors de prochaines visites. Aucune explication n'a été donnée à ce renoncement, alors que vendredi, le porte-parole de l'ONU avait précisé que le haut responsable avait l'intention de s'y rendre. À en croire des sources proches du dossier, les autorités marocaines avaient exprimé des réserves à un tel déplacement lors de la première tournée de M. de Mistura dans la région en janvier, qu'il avait conduit au Maroc, en Mauritanie et en Algérie pour y rencontrer les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Ce dernier réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. Rabat, qui contrôle près de 80% du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, propose de son côté un plan d'autonomie sous sa souveraineté.
L'Algérie célèbre ce mardi en grande pompe le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire crispe toujours ses relations avec Paris. Au programme notamment une parade militaire d'ampleur inédite supervisée par le président algérien Abdelmajid Tebboune. La région de l'Oromia, la plus vaste et la plus peuplée d'Éthiopie, a été le théâtre d'un nouveau massacre de civils, a annoncé lundi soir, sans donner de bilan, le premier ministre Abiy Ahmed, accusant les rebelles de l'armée de libération Oromo. Il n'était pas possible dans l'immédiat de vérifier cette information et d'obtenir des détails.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police a interpellé le suspect de la fusillade qui a fait lundi au moins 6 morts et 26 blessés lors d'un défilé près de Chicago pour la fête nationale américaine du 4 juillet. Il a été arrêté sans incident après une brève poursuite en voiture, Nathalie Barge.
Le drame dans un pays encore sous le choc d'une récente série de fusillades meurtrières a eu lieu à Highland Park, dans le nord des États-Unis. Des centaines de policiers ont recherché le jeune homme qui, armé d'un fusil puissant, a tiré sur la foule réunie dans cette ville de 30 000 habitants sur les rives du lac Michigan. Un énorme dispositif sécuritaire avait été déployé avec des véhicules blindés et des renforts fédéraux. L'homme s'était posté sur le toit d'un commerce, semant la panique avant de fuir. La police avait identifié un suspect, Robert Crimeau, âgé de 22 ans et originaire de la région. Elle avait diffusé sa photo, avertissant qu'il était armé et très dangereux. L'homme dispose de plusieurs pages sur Internet où il est présenté comme un musicien de Chicago surnommé Awake the Rapper. D'après le journal local Chicago Tribune, une vidéo postée il y a 8 mois montre un jeune dans une chambre et une salle de classe avec des affiches d'un tireur et des gens se faisant tirer dessus et un commentaire audio avertissant qu'il allait le faire sans que rien ne puisse le retenir.
La tragédie a immédiatement ravivé le débat sur les armes à feu. C'est accablant qu'une fête en l'honneur de l'Amérique soit sabotée par un fléau typiquement américain, a commenté le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker. Se disant choqué, le président démocrate Joe Biden a pour sa part promis dans un communiqué de ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violence par armes à feu. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la prise de Lysychansk. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a lui lundi soir mis en garde que repousser l'envahisseur demanderait du temps et des efforts surhumains. Et à l'occasion de la conférence internationale à Lugano en Suisse pour préparer la reconstruction de l'Ukraine, le président Zelensky et son premier ministre ont dit qu'il faudra au moins 750 milliards de dollars pour reconstruire leur pays. La Minute Éco, Manit Talani.
En Guinée, la junte ordonne à deux géants miniers d'arrêter à partir de lundi leurs activités liées à Simandou, l'un des plus vastes gisements de fer au monde. Les militaires accusent les sociétés de manquer de volonté dans la création d'une coentreprise avec l'État guinéen, selon un accord tripartite signé en mars pour une durée de 35 ans et qui représente plusieurs milliers d'emplois. La Tanzanie annonce avoir signé un accord avec une entreprise turque pour construire une ligne ferroviaire moderne de 165 km pour 900 millions de dollars dans un délai de 42 mois. La ligne est censée améliorer les transports dans le pays et stimuler le commerce avec ses voisins, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Elle fait partie d'un plus grand projet ferroviaire de 1219 km que la Tanzanie a mis en œuvre pour relier la capitale commerciale Dar es Salaam sur l'océan Indien à Mwanza sur le lac Victoria. Pour terminer, le ministre nigérian de l'information, Lai Mohamed, soutient que ce n'est pas le moment de supprimer la coûteuse subvention au carburant du Nigeria, car la suppression risquerait d'entraîner le chaos. Il note que de nombreux autres pays introduisent des mesures pour aider leurs citoyens à faire face aux prix élevés de l'énergie pétrolière. Monsieur Lai estime aussi que la nouvelle loi sur l'industrie qui alloue de l'argent aux communautés productrices de pétrole mettra fin aux attaques.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAN féminine se poursuit au Maroc.
Oui, le groupe A effectue sa deuxième sortie dans cette CAN. Battu en ouverture par le pays hôte, le Burkina Faso voudra se relancer face au Sénégal, qui voudra confirmer après sa victoire lors de la première journée. Opération relance également pour l'Ouganda devant le Maroc. Hier, le groupe C a bouclé les rencontres de la première journée dans le duel entre le champion en titre, le Nigeria, et l'Afrique du Sud. Ce sont les Bayana sud-africaines qui se sont imposées 2-1 devant les Super Falcons.
La CAF lance une Super League africaine.
Ce sera dès août 2023. D'après la Confédération africaine de football, cette Super League africaine sera dotée de 100 millions de dollars. Une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain. Une partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse, précise le président de la CAF, Patrice Motsepe, dans un communiqué. Les détails de cette nouvelle compétition seront dévoilés le mois prochain lors d'une cérémonie de lancement organisée en Tanzanie, indique le communiqué de la CAF.
Des nouvelles de transfert en football?
Oui, Franck Kessié s'engage avec le FC Barcelone. Le club catalan annonce l'arrivée pour 4 ans du milieu de terrain ivoirien qui était en fin de contrat avec l'AC Milan. Il sera officiellement présenté mercredi, âgé de 25 ans. Franck Kessié a passé les 5 dernières saisons au Milan, sacré l'an passé champion d'Italie pour la première fois depuis 2011. De son côté, l'international égyptien Mahmoud Hassan, surnommé Trezeguet, s'est aussi engagé pour 4 saisons avec le champion de Turquie, Trabzonspor.
Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG.
Le technicien français s'est engagé pour 2 ans avec le Paris Saint-Germain en remplacement de l'Argentin Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur de Nice a effectué ses grands débuts d'entraîneur principal en 2009, démarrant une histoire d'amour de plus de 7 ans avec l'AS Saint-Étienne, marquée par une victoire en Coupe de la Ligue en 2013. Plusieurs campagnes européennes et un titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2013. Arrivé au chevet de Lille après le fiasco Marcelo Bielsa fin 2017, Galtier réussit à maintenir le club en Ligue 1 en 2018, le menait ensuite à la deuxième place, puis à la consécration en mai 2021, détrôna Paris pour le titre national à la surprise générale, épaulé par le directeur sportif Luis Campos, qu'il retrouve à Paris. Il doit être présenté ce mardi par le club parisien qui a convoqué une conférence de presse au Parc des Princes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La République centrafricaine a officiellement adopté dimanche sa nouvelle monnaie virtuelle, le Sango Coin. Il s'agit d'un bitcoin qui, selon les autorités, permettra à ce pays déchiré par 9 ans de guerre civile de trouver un système de ressources financières indispensables à son développement. Cependant, beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes planent sur cette crypto-monnaie. Félix Yepassis Zembrou a recueilli la réaction d'un membre de la diaspora centrafricaine à New York, de surcroît un expert en finance, Didier Ozengen.
Sans rentrer beaucoup dans le détail, c'est le bitcoin de l'aspect technique. Et ce qui serait bien de savoir, c'est de comment est-ce qu'on va passer de l'aspect technique pour que ça soit utile aux citoyens lambda. À savoir que du fait que le bitcoin, ça reste quand même tout de même quelque chose qui est purement très, très, très haut de gamme encore. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus les investisseurs privés, les entreprises privées, etc., etc. Donc, il faut maintenant que le gouvernement vienne peut-être avec une autre deuxième phase pour comment est-ce que ça va maintenant servir le citoyen lambda.
Quel sera donc l'impact du Sango Coin par rapport au fonds CFA du moment où la République centrafricaine fait partie de la zone CFA?
Pour l'instant, il y a aucun impact parce que le système CFA, c'est déjà un système bancaire avec toutes les conventions, etc., etc. Et Bitcoin, c'est carrément aussi un système totalement à part. Et comme je le disais tantôt, c'est beaucoup plus privé, individuel comme entreprise. Alors si une entreprise de la zone CFA adopte un système de Bitcoin et que maintenant une entreprise privée ou même publique a un compte aussi dans cette même banque et la banque lui donne la possibilité de transférer sur un compte normal pour jouir maintenant de toutes ces possibilités. À ce moment-là, il y a un impact. À ma connaissance, je pense pas que dans le système CFA, il y ait une banque en ce moment qui a adopté ça. D'autant plus qu'ici, même aux États-Unis, dans les grandes banques, je ne pense pas que les grandes banques ici, ils ont adopté le Bitcoin.
Monsieur Ozenguet, on dit que le Sango Coin, soit le Bitcoin, pourra mobiliser davantage de ressources financières pour le développement de la République centrafricaine par rapport au système de financement traditionnel. Est-ce votre avis?
Vous savez, le système, les sources conventionnelles en ce moment, hein, beaucoup plus c'est les subventions que soient des pays développés, etc. Donc ça, c'est encore le système qui prévaut. Alors le Bitcoin pourra s'y ajouter comme une des sources. Alors maintenant, comme je dis encore, hein, c'est un système tout à fait à part. Donc il faut maintenant aller de ce système tout à fait à part pour essayer de le balancer dans le système normal pour que, maintenant, ça bénéficie au grand public. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut effectivement travailler beaucoup là-dessus. Donc, c'est spéculatif. Si l'autre descend, l'autre aussi augmente. Donc, c'est des risques qui sont liés uniquement à cela. Et c'est à chacun, hein. Donc, c'est pourquoi je disais, c'est beaucoup plus individuel. Donc, c'est à chacun d'assumer ces risques-là. Mais pour que ça devienne beaucoup plus public, l'intérêt public, il y a quand même des règles qu'il faut passer. Et puis, le gouvernement va devoir travailler pour présenter, peut-être affiner un peu cet aspect.
Didier Ozenguet, un expert en finance. Au Sénégal, à moins d'une semaine de la Tabaski, la fête du mouton, les éleveurs affichent leur inquiétude face à la conjoncture qui retient les clients. Il y a aussi les prix des aliments de bétail qui les obligent à vendre leurs moutons à des prix souvent hors de portée. Il s'explique au micro de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Tel un père entouré de ses enfants, Cosmos est aux petits soins pour ses moutons. Câlins, caresses et nourriture, l'éleveur fait tout pour que ses béliers soient au top de leur forme. Mamoudou Cosmos Cissé ne quitte presque plus son enclos, attendant impatiemment les clients qui ne se bousculent pas encore à cause de la conjoncture.
Il n'y a pas d'argent et il faut savoir que de la même manière que la vie est chère pour les ménages, pour nous éleveurs, c'est pire car le prix du foin a doublé. Nous savons que nous ne pouvons pas récupérer tout ce qui a été investi dans le cheptel, mais nous faisons en sorte de marchander pour que chacun ait un mouton, même si, des fois, nous sommes obligés de laisser de côté nos bénéfices.
Ogombaï a son enclos à quelques mètres du stade d'Embo Diop de Dakar. Il est un habitué de la vente de moutons lors des fêtes et il a sa stratégie pour écouler son troupeau sans perdre au change.
Par exemple, c'est d'art alimentaire cher, très cher.
Nous achetons les aliments pour les moutons et ils coûtent très cher. Donc c'est compréhensible si le prix des moutons connaît une certaine hausse. Chacun aura droit à un mouton, mais moi je me focalise un peu plus sur mes clients fidèles avec qui je travaille depuis des années. Malgré la hausse, eux comprendront mieux le pourquoi.
La sécurité du cheptel est aussi un réel souci pour ces éleveurs. S'ils ont pu éviter le pire lors des récentes heures politiques des dernières semaines, ils attendent maintenant une plus grande aide des autorités pour la sécurité des points de vente.
Lors de la dernière manifestation, il y en a qui sont venus se réfugier dans nos tentes et les policiers ont tiré des lacrymogènes sur nous et nos moutons. Et c'est une chose qui doit être évitée. L'État nous a aidés pour la sécurité de nos moutons au début avec un numéro vert qu'il mettait à notre disposition pour pouvoir les appeler en cas d'incident. Mais cette année, ce n'est pas encore le cas alors qu'on a besoin d'eux.
Même si le gouvernement malien a autorisé l'envoi de plus de 5000 moutons à destination du Sénégal, la situation économique qui prévaut avec l'augmentation du prix du foin, les tarifs liés au transport et à l'entretien des moutons amènent souvent les vendeurs à appliquer une hausse sur les prix de leurs billets. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, des changements sont attendus dans la façon dont le pays traite les migrants le long de sa frontière sud. La Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Biden, mettant fin à une politique de l'ère Trump qui obligeait les migrants à attendre en territoire mexicain leur date de passage devant les services américains de l'immigration. La semaine dernière, plus de 50 migrants sont morts dans un camion remorque abandonné au Texas. Reportage d'Arash Arabazad, récit de Yacouba Ouedraogo.
La semaine dernière, à San Antonio, au Texas, un employé de la ville a alerté les forces de l'ordre sur ce qui allait devenir l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire des personnes entrant aux États-Unis. Les autorités fédérales ont inculpé 4 hommes dans l'opération de contrebande meurtrière où les migrants entassés dans une remorque n'avaient ni eau ni climatisation lorsque le chauffeur les a abandonnés avant de s'enfuir. Cela est survenu la même semaine où la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre des protocoles de protection de migrants ou MPP, une politique de l'ère Trump communément appelée « rester au Mexique ». L'annulation de cette décision est une victoire pour le président Joe Biden. Elle met fin à une politique qui a forcé des milliers de migrants à rester au Mexique en attendant que les tribunaux américains traitent leurs demandes d'asile. Cela conduit souvent les migrants à prendre des mesures extrêmes pour atteindre le sol américain. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour suprême soutenant notre engagement à mettre fin au programme Rester au Mexique, qui présente des défauts endémiques et provoque une tragédie humaine injustifiable. Nous devons attendre que la décision de la Cour suprême soit effectivement communiquée aux tribunaux de première instance.
Selon Mayorkas, ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. La décision intervient alors que cette année, des centaines de milliers de migrants ont cherché à entrer aux États-Unis par leur frontière sud. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait savoir que les forces de l'ordre de l'État augmenteraient les points de contrôle des camions pour éviter une tragédie comme celle de San Antonio. Il ajoute que l'administration Biden en est responsable.
Many of these deaths could be prevented.
Beaucoup de ces décès pourraient être évités si Biden finançait entièrement l'opération de patrouille frontalière des États-Unis et mettait en œuvre les politiques dont la patrouille frontalière a besoin pour faire son travail. Ce travail n'est pas celui du traitement de dossiers qui leur a été attribué. Le travail consiste à la fois à sécuriser la frontière et à faire des choses comme inspecter le véhicule qui transportait ces personnes ayant perdu la vie.
that was carrying those people who lost their lives.
Alors que la politique restée au Mexique va bientôt prendre fin, une autre politique controversée de l'ère Trump reste en vigueur. Il s'agit de la mesure de santé publique prise en réponse à la pandémie de coronavirus qui a empêché de nombreux migrants d'entrer aux États-Unis. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé son intention de rencontrer le président Biden le 12 juillet pour discuter de la migration.
VOA Afrique en direct de Washington.
À l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée le 4 juillet aux États-Unis, une cérémonie spéciale de naturalisation s'est tenue le 1er juillet dans la nouvelle aile de la bibliothèque de New York. 40 immigrants issus de 22 pays ont prêté serment pour devenir des citoyens américains et défendre les valeurs des États-Unis. À New York, Dilly Dico s'est entretenu avec ces nouveaux Américains. Son reportage.
Pour ces 40 immigrants, cette journée restera gravée dans la mémoire. Il s'agit du jour où ils sont devenus des citoyens américains. Ces hommes et ces femmes sont issus de 22 pays des quatre coins du monde. Le Cameroun, la Chine, la Colombie, mais aussi la France, le Nigeria et l'Ukraine, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi eux, 15 soldats de l'armée américaine. Des personnes qui, bien avant de devenir citoyens de ce pays, ont décidé de servir les États-Unis de la manière la plus dévouée possible. Abdrahman Keïta, un soldat de première classe, est d'origine malienne. Il se dit très fier de devenir américain.
Ce jour est un grand jour pour moi. Je pense même pas s'il y a des mots pour expliquer les joies que j'ai aujourd'hui. Parce que devenir citoyen américain, ça t'ouvre pas mal de portes. Et le fait même pour moi de joindre l'armée américaine, ce pays a beaucoup de valeurs que moi je pense que tout citoyen, toute personne vivant dans ce pays doit défendre ses valeurs. Les États-Unis sont le seul pays dans lequel la liberté on peut toucher par l'armée.
Quant à Romain Caboré, qui vient tout juste de prêter serment pour préserver les valeurs et les principes des États-Unis, il considère que bien avant ce jour, il s'est engagé à défendre le drapeau américain. Venu du Burkina, il sert aujourd'hui en tant que spécialiste en infanterie dans l'armée américaine.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. S'il a depuis un certain moment, déjà je pense que j'étais déjà américain en juin de l'armée. Pour moi, il n'y a pas un grand plus d'amour que de servir les États-Unis, particulièrement dans l'armée, que de ne pas ricocher, avoir la nationalité. Yeah.
Kendrine Ellis est arrivée aux États-Unis de la Jamaïque il y a un peu plus de 10 ans. Son chemin vers la nationalité américaine n'a pas été facile. Sa détermination à poursuivre cet objectif la rend d'autant plus heureuse aujourd'hui.
Je suis très contente. J'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai eu des hauts et des bas, mais mon désir ardent de devenir américaine m'a poussée. Et je pense que maintenant, c'est le bon moment pour cela. Donc, je suis très heureuse. Je veux voter, mais comme je n'étais pas une citoyenne, je ne pouvais pas. Désormais, je peux voter.
Pour Mami Asegawa, une japonaise vivant en Amérique depuis 25 ans, cette cérémonie de naturalisation marque la date anniversaire de son arrivée aux États-Unis. Un signe pour elle que chaque chose arrive en son temps.
I've been living here for 25 years.
Je vis ici depuis 25 ans et mon fils a grandi ici. Ce pays m'a donné tellement de possibilités. Vous savez, j'ai construit ma vie ici. Donc je pense qu'il est temps de devenir américaine ce 1er juillet, le jour où je suis venue du Japon.
Pour toutes ces personnes devenues citoyens américains en cette occasion spéciale de la fête de l'indépendance, cette journée restera inoubliable.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.